Et c'est avec plaisir qu'on le retrouve et qu'on le retrouvera comme ça chaque jeudi après-midi. Olivier Beauregard, bonjour.
Rebonjour.
Et on s'était laissé au mois de juin en se disant, ben on va se reparler en séries éliminatoires. Il y a au moins une chose qui était bonne dans cette boule de cristal-là. Ça s'enlignait bizarrement pour l'été, mais finalement, on avait quand même vu juste. Là. Séries éliminatoires, on est là, on y reviendra dans un moment. Mais on parle tout d'abord de hockey. On parle de cette acquisition chez le Canadien, Joel Edmondson. Et là, la question, c'est est-ce que c'est une bonne acquisition ou pas de la part de Marc Bergevin?
Ben écoute, oui, ça a été tout un été. Là. D'abord, je vais peut-être juste glisser un mot sur les performances du Canadien en série rapidement. Là. Ça a été pas mal intéressant, Sébastien, ce qu'on a vu pendant l'été. Mais on a vu aussi qu'il y avait certaines lacunes qui auraient pu permettre aux Canadiens de passer à travers les Flyers de Philadelphie, dont un défenseur du gabarit de Joel Edmondson. Et écoute, hier, le Canadien de Montréal a consenti une prolongation de contrat. On parle de 4 ans pour Joel Edmondson avec une moyenne d'environ 3,5 millions de dollars annuellement. Ça, là, c'est excellent comme contrat. Je réponds directement à ta question, c'est le contrat qu'on s'attendait. Puis la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que c'est le même salaire qu'un gars comme Ben Chariot. Donc, j'ai pas l'impression qu'on a trop cher payé pour un défenseur. Il coûte 4 ans, 14 millions de dollars. Ça, sur la masse salariale du Canadien de Montréal, là, ça change pas nécessairement la donne. Okay. C'est-à-dire que ça nous laisse encore du jeu pour recruter, pour avoir de l'argent disponible pour un joueur de qualité, pour continuer de faire des recherches du côté du marché. Mais ça prouve encore que Marc Bergevin a fait son travail. Parce que pour aller chercher les droits de Joel Edmondson avant de le signer, le Canadien a payé un choix de 5e ronde. 5e ronde, là, écoute, c'est rien pour un défenseur de cette trempe-là, parce que Edmondson, il y en a qui vont me dire, ben oui, mais il joue en Caroline, c'est pas un défenseur flamboyant, c'est un défenseur défensif. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter au Canadien de Montréal? Ben écoutez, c'est un gars d'abord qui a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis il y a 2 ans. Ça, déjà là, c'est... C'est assez incroyable d'avoir un défenseur qui a l'expérience des séries éliminatoires, qui est capable d'amener une équipe en série, qui est capable aussi de jouer du hockey de série et qui a l'expérience d'une finale et d'avoir remporté la Coupe Stanley. Ça, ça n'a pas de prix, un défenseur comme ça. Et Edmondson, c'est un gros bonhomme qui est capable de jouer sur les deux premières paires défensives, puis d'autant plus que c'est un gaucher, ce qu'on avait besoin à Montréal. C'est pas un grand sauveur, mais c'est une pièce importante que le Canadien de Montréal était en mesure d'aller chercher. Puis moi, ce que j'aime, là, c'est qu'on n'a pas répété le problème Carl Osner. Parce que rappelle-toi, quand le Canadien de Montréal a signé Carl Osner des Capitals de Washington, lui qui testait le marché des joueurs autonomes, c'était à peu près le seul défenseur gaucher qui était disponible sur le marché des joueurs autonomes. Et le Canadien de Montréal s'est empressé de le signer à fort prix parce que, bon, évidemment, il y avait une grande demande, mm-hmm. puisqu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs disponibles. Et on a payé cher. Finalement, ça a fini. Cosner a joué une saison complète avec le Canadien, puis par la suite, ben, a joué plus souvent dans la Ligue américaine qu'à son tour. Alors, tu sais, moi, j'avais peur que le Canadien veuille trop cher payer un gars comme Joel Edmondson pour s'assurer d'obtenir ses services. Puis pourtant, ben, c'est pas ce que Marc Bergevin a fait. Marc Bergevin montre qu'il a appris de ça et a donné un contrat, comme je le mentionnais, de 14 millions sur une période de 4 ans. Moi, je trouve que c'est l'idéal et on vient de régler un problème quand même assez important du côté du flanc gauche du Canadien de Montréal. C'est un gars qui va être très difficile à jouer contre. C'est un gars qui va jouer contre les meilleurs trios. Moi, je m'attends à ce qu'il joue avec Jeff Petrie et je pense que la défensive du Canadien de Montréal va être intéressante. Maintenant, j'espère juste que Marc Bergevin va arrêter de bâtir dans sa défensive, là, parce que c'est correct de bâtir un club par l'arrière. Là, on l'a le gardien, on a une défensive quand même potentiellement... assez convaincante. Maintenant, ça va te prendre les éléments à l'attaque, mais ça, c'est un autre dossier.
On risque d'en reparler au courant de la saison, ben oui. De toute façon. Ce soir, 20h, 6e match entre le Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York. Donc, ça pourrait se terminer ce soir.
Oui, exact. Ça aurait pu se terminer aussi au match numéro 5, oui. Parce que Tampa Bay avait pris les devants dans cette série-là assez rapidement. Moi, ce que j'aime, c'est que les Islanders de New York, c'est une équipe qui est le fun à regarder. C'est pas un style d'hockey flamboyant, mais c'est une équipe qui travaille énormément, ils abandonnent jamais. La preuve, c'est qu'ils ont réussi à amener le Lightning en prolongation le dernier match, aller chercher ce fameux but-là gagnant. Ce que j'adore, Sébastien, c'est le travail de Barry Trotz, d'être capable de contenir des éléments clés, parce que c'est pas facile de jouer contre le Lightning de Tampa Bay. Il y a des joueurs qui ont énormément de talent au sein de cette formation-là. Je te dirais que les trois premiers trios pourraient être des trios numéro un dans certaines équipes de la Ligue nationale. Alors, t'as pas ça partout, et c'est ça qui fait en sorte que ben je trouve qu'on fait un travail défensif assez intéressant. Maintenant, faut être capable de marquer des buts parce que t'as pas le droit à l'erreur. Mm-hmm. Là, il y en a qui me disaient, est-ce que t'as l'impression que les Islanders de New York peuvent revenir dans cette série-là maintenant que c'est 3-2? Écoutez, c'est pas impossible parce que dans le monde du hockey, c'est ce qui est merveilleux. Par contre, je vois pas comment le Lightning de Tampa Bay va perdre trois matchs consécutifs. C'est-à-dire, on a perdu le dernier. Mm-hmm. Je m'attends à ce que s'ils perdent ce soir, ils perdront pas le match numéro 7. Pas capable de voir comment cette équipe-là, qui a aussi de profondeur, qui est une équipe tellement, disons, intéressante à tous les points de vue, dans chaque position, je suis pas capable de voir comment cette équipe-là peut perdre trois matchs consécutifs. Puis l'autre chose, ben j'ai profondément l'impression que c'est l'année du Lightning de Tampa Bay, de la façon dont ils jouent, de la façon dont on sent un peu plus de hargne dans leur jeu. Même Nikita Kucherov, qui s'est façon à ses éliminatoires, moi, je trouve qu'en ce moment, il a pas été parfait, là, mais il a connu de bons moments. Stamkos n'est pas là en plus. Alors,
ils l'ont pas volé, là, la position où ils sont, ils l'ont pas volé. Là.
Non, tout à fait, exactement. C'est une équipe qui, à chaque année, on pense que c'est eux qui vont gagner la Coupe Stanley. Là, peut-être que ce sera la bonne. En tout cas, on sait que les Stars de Dallas attendent l'équipe de l'autre côté. Donc, ça pourrait se terminer ce soir. Maintenant, il reste à voir si Braden Point va être dans la formation du Lightning. C'était pas là le dernier match qui s'est apparu énormément parce que c'est le gars qui, disons, est la bougie d'allumage à Tampa Bay. Est-ce qu'il sera là ce soir? Ben ça, ce sera confirmé par John Cooper là, au courant de la en début de soirée, là, juste avant la rencontre.
Sinon, dans le monde du football, il y a Tom Brady qui a été critiqué publiquement là, par son nouvel entraîneur.
Ben oui, absolument. Puis ça, je trouve ça assez spécial. Écoutez, ça, c'est suite au premier match de Tom Brady dans l'uniforme des Buccaneers de Tampa Bay. D'abord, Sébastien, il faut que je le dise, puis je vais le partager avec nos auditeurs parce que je suis pas mal certain qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé ça aussi bizarre que moi. De voir Tom Brady dans un autre uniforme dans la NFL.
Déjà là,
dans un... Oh, pas de bon sens. J'étais tellement... On dirait que c'était pas vrai, on dirait que c'était irréel. J'ai trouvé ça intéressant quand même. Et je voulais voir ce que cette attaque-là pouvait donner avec un gars comme Tom Brady. Bon, évidemment, ça n'a pas été le résultat escompté parce que ça a été, disons, difficile. Mais on affrontait quand même les Saints de la Nouvelle-Orléans, qui est une excellente formation, avec un gars comme Drew Brees. Pas facile de jouer pour Tom Brady contre cette équipe-là, qui n'a pas affronté souvent dans sa carrière parce que il était dans une autre association complètement. Et ça va changer pour Tom Brady parce qu'il va affronter des équipes qu'il n'avait pas l'habitude d'affronter. Mais moi, revenons à ce qu'on disait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment ce que l'entraîneur-chef Bruce Arians a fait après la rencontre. Il a critiqué le travail de son corps arrière en disant on s'attend à beaucoup plus du côté des joueurs, du côté du personnel entraîneur, du côté de la direction de l'équipe de Tom Brady. Son premier match, souhaitons que ça ne reflètera pas sa saison. Écoutez, là, c'est très, très rapide. Là, c'est un match. Un gars qui a une nouvelle formation. D'ailleurs, en plus, avec la COVID, là, il n'y a pas eu de match pré-saison.
C'est ordinaire,
Ben, il faut se calmer, là. Puis je veux dire, c'est Tom Brady. Il y a 6 vagues du Super Bowl. Est-ce qu'on peut lui donner une chance de juste établir une certaine confiance avec ses joueurs, une certaine aussi routine avec ses joueurs-là? Puis moi, je suis pas mal certain que Tom Brady est capable d'offrir des performances intéressantes avec les Buccaneers, qui ont une équipe sur papier vraiment intéressante aussi. Mais quand un entraîneur-chef, il va de la sorte avec des commentaires assez, assez virulents envers le corps arrière vedette d'une équipe qui vient d'arriver, honnêtement, là, tu t'aides pas parce que ce corps arrière-là a le luxe et le pouvoir de dire hey, écoute, moi, si t'es pas content, j'accepterai pas qu'on me ramasse publiquement.
Ah non,
comme ça,
il peut s'en aller, là. Il a pas besoin de ça pour vivre, là.
Exact. Alors, en tout cas, j'ai hâte de voir le prochain match, mais soyez assurés, j'ai l'impression que Tom Brady va pas nécessairement vouloir gagner que pour lui, que pour l'équipe, mais pour montrer au coach aussi que, garde, fais-moi confiance, tu mises sur le bon pion.
Et en terminant, quelques mots, Olivier, sur le sport scolaire, parce que c'est une saison bien différente là, qui s'amorce.
Oui, exact. Puis écoutez, c'est juste pour en glisser un mot rapidement, parce qu'on a appris que le RSEQ avait annulé les activités au niveau universitaire. Moi, là, évidemment, je suis un produit de ces réseaux étudiants-là, collégial, secondaire, universitaire. J'ai joué au football dans ces années-là, dans ces réseaux-là. Et je sais à quel point, Sébastien, ça peut changer la vie de certains étudiants, parce qu'il y en a, entre autres, qui auraient pu décrocher de l'école si ça n'avait pas été du sport scolaire, si ça n'avait pas été des activités comme ça, que ce soit... Puis là, tu sais, je nomme le football parce que Bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il y en a plusieurs autres. Maintenant, il y a le hockey, il y a le soccer, etc. Et je connais beaucoup de gens, Sébastien, qu'au niveau collégial, même au niveau secondaire, auraient abandonné l'école s'il n'y avait pas eu de sport comme ça. Et là, en sachant que le RSEQ jongle à l'idée d'annuler les activités, je comprends que c'est un contexte de pandémie, je comprends que c'est un contexte qu'on n'a jamais connu auparavant, mais j'espère vraiment qu'on va penser à un plan pour ces jeunes-là, pour ces athlètes-là qui veulent, qui ont besoin de ça, disons, pour s'accrocher aux études, qui ont besoin de ça pour continuer leur école, parce que écoute, ça pourrait être désastreux comme constat à la fin de la pandémie lorsque les activités vont reprendre. Puis je te parle pas au niveau des X vidéos, là. Je te parle au niveau humain, Sébastien. Là, ça pourrait être désastreux ce que ces jeunes-là pourraient emprunter comme chemin si le réseau du sport étudiant ne trouve pas une façon, là, justement, de garder ces gars-là, ces filles-là à l'école.
On espère que tout ça se réglera le plus rapidement possible et qu'on puisse retrouver un semblant de normalité à travers ça. Puis, du sport, comme ça, on va en parler chaque semaine. C'est un rendez-vous chaque jeudi aux environs de 16h15. Olivier, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.
Merci à toi. À la semaine prochaine.